De visu, l'art contemporain, Lise Hoth.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlerons de peinture abstraite, mais aussi figurative, à l'occasion de deux expositions qui ont lieu à Montpellier, l'une à la Galerie Vasistas jusqu'au 21 avril, consacrée à Mika Pérez, exposition qui porte le titre de « Comme dirait Almost », et puis à la Galerie Samira Kambi, autre exposition sous le titre de « Sunset », Ponant, le Ponant au coucher de soleil jusqu'au 16 avril, grâce à la patte de Thomas Verny. Abstraite avec Mika Pérez, donc à la galerie Vasistas, diplômée des Beaux-Arts de Nîmes en 2009. L'artiste s'est fait connaître la même année par une exposition collective aux côtés de deux autres diplômés des Beaux-Arts, Sonia Foulque et Julia Scalbert. Pour être inaugurale, l'exposition n'en affichait pas moins un grand désir de peinture que son titre « Yes, we paint »,« Oui, nous peignons » énonçait avec vigueur. Presque 10 ans plus tard, Mika Pérez montre moins péremptoire, mais creuse le sillon d'une peinture abstraite qui se veut de qualité, en se centrant sur des recherches autour de ce que le critique américain Clement Greenberg nommait les processus de l'art. Soit, en ce qui concerne cet artiste, des recherches sur le tableau et ses axes de composition les plus essentiels, mais aussi sur les effets de matière, excluant en tout cas toute référence à l'image et à ses représentations, et ce bien que Mika Pérez se montre aussi très intéressé par l'illustration et la bande dessinée. Après une période d'interruption de ses travaux de peinture, Mika Pérez s'est consacré à la composition musicale. La bande sonore que nous écoutons en arrière-plan est de son cru. Il s'agit d'une bande intitulée « Mes 8 défenses d'éléphant », créditée sous le nom de Sylvia Monnier. Elle accompagnera les extraits de l'entretien que j'ai eu avec l'artiste le 16 mars dernier.
Que j'essaie de simplifier ou de minimiser la forme à son plus simple appareil. Et via la couleur et via de simples traits géométriques, j'essaie d'aller à l'essentiel, en tout cas d'en dire le minimum pour pouvoir évoquer moi ce qui me semble le plus important. Disons que je retrouve des forces, des lignes de force en fait, autant dans l'art abstrait, autant dans toute l'histoire de l'art géométrique, abstrait, toute cette période dite Hard Age, etc., que dans la façon dont les dessinateurs de bande dessinée, plutôt de comics, je dirais, américains, construisent en fait leur univers, etc., et toutes les expérimentations en fait qui produisent au sein d'une page, d'une simple page imprimée. Tout ça, je ne saurais pas vous dire comment ça prend tournure, en fait. Mais au final, il en découle ses formes. Pour continuer aussi là-dedans, en fait, la couleur joue aussi beaucoup, autant dans l'imprimé, dans la page papier, que dans la peinture, en fait. Et c'est des choses qui m'ont... Je pense que la couleur, en fait, je l'ai découvert avec un artiste qui s'appelle Chris Ware, qui joue sur des tons pastels, comme ça, et qui, justement, a une façon de découper la narration au sein d'une même page, qui m'a vraiment fasciné. Et après, j'ai découvert en fait des liens que je me suis moi-même créé en fait via l'art abstrait, via des livres comme celui de Joseph Albers, des choses comme ça qui m'ont amené en fait inconsciemment, je dirais, à produire au fil du travail cette peinture-là.
Le choix des couleurs vers lesquelles vous cherchez à vous diriger semble très orienté justement par le regard que vous avez aussi sur la bande dessinée.
Oui, bien sûr.
Hein, c'est-à-dire quand j'en vois un là de loin, il y a du jaune, du turquoise et du rouge avec un cadre blanc. Bon, c'est typiquement BD ça. C'est même culture populaire des t-shirts aussi, non?
Ben oui, c'est en même temps que je parle de bande dessinée, il y a aussi toute cette culture qui en découle. Ça peut être les logogrammes et comment c'est récupéré aussi. Mais oui, après il y a le design graphique qui m'intéresse dans le sens purement esthétique d'une page d'un livre, par exemple. Je trouve, par exemple, dans le design graphique français, par exemple, on est très très loin de ces beaux objets qui sont fabriqués en édition américaine, où le livre, la couverture du livre, en dit déjà énormément en fait sur le contenu.
C'est l'héritage anglais, ça aussi.
Ouais.
Les Américains sont très marqués par ça.
Ouais, ouais. Donc ouais, tout ça, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a. Et puis j'aime bien voir les choses de l'extérieur. Par exemple, je ne me suis jamais dit que j'allais travailler là-dedans, par exemple dans le graphisme ou dans le design ou des choses comme ça. Je me dis souvent qu'il faut voir les choses de l'extérieur pour les comprendre en fait. Et c'est pour ça aussi que je papillonne, que je grappille,
oui,
comme vous dites, et que je prends tous ces éléments-là. Et je les laisse cogiter comme ça.
De Visu sur FM+ s'intéresse aujourd'hui à la peinture contemporaine et plus précisément sa tendance abstraite avec l'exposition consacrée à Mika Pérez à la galerie Vasistas, 37 avenue Buisson-Bertrand jusqu'au 21 avril sous le titre « Comme dirait Almost ».
Il y a un travail qui est visible dans chacun de ces tableaux et qui s'établit en contradiction avec ce que la peinture, la couleur dégage, et qui est qu'il y a de la matérielle, il y a de la matérialité, ou bien il y a une matérialité, ou bien il y a des repentirs. Alors expliquez-nous ce choix justement de faire exister, de faire en sorte que ces repentirs ou cette matérialité un peu vivante, hein, qui est comme arrêtée, mais qui semble encore pouvoir bouger, vous paraît importante. Commençons peut-être par la question du repentir.
Ouais, ouais,
allez,
ouais.
Ça veut dire qu'il y a eu un premier tableau, ce premier tableau n'a pas convenu, et vous en avez fait un autre.
Oui, mais écoutez, ouais, ça fait... En fait, ce qui est présenté ce soir à la galerie, c'est ce sont des tableaux que j'ai fait pendant ces dernières 2 années. Et au départ, en fait, j'avais... Il faut savoir que j'avais arrêté la peinture pendant 5 à 6 ans. Et j'ai eu une très forte envie de m'y remettre. Et quand je m'y suis remis, en fait, à tout ce travail, je n'avais aucune idée de là où je voulais aller. J'avais juste envie et besoin, surtout, de retravailler la peinture, etc. Donc j'étais parti dans une peinture pas très intéressante, je pense, aujourd'hui, avec les yeux que j'ai, avec le recul. Et au final, en fait, au fil du temps, j'ai toujours retravaillé, je repeignais par-dessus, je réintervenais. Et sans cesse, je faisais des jeux de va-et-vient comme ça à travers toutes les toiles sur lesquelles je travaillais. Et j'en suis arrivé parce qu'elles étaient très fournies, très détaillées, très...
fourmillantes.
Ouais. Ouais. Et j'en suis arrivé à aller... j'en suis arrivé à une sorte de minimalisme. J'ai très épuré, en fait. J'en suis arrivé à enlever. Et c'est drôle parce qu'en en enlevant, j'ai laissé tout ce qui était déjà sur la toile auparavant, toutes ces couches de peinture, etc. Et je les ai laissées volontairement présentes par la surface, par la pâte, etc. Et c'est des choses qui m'ont... Je ne sais pas trop comment dire ça, mais...
Oui, alors en les regardant, ben, j'ai pensé à un autre courant de la peinture américaine, qui est le courant des combined paintings de Rauschenberg, ou même aux fameuses cibles, ça y est, j'ai plus son nom tout d'un coup, de Jasper Johns, hein, qui sont des tableaux, alors évidemment, dont on ne sait pas si on les voit pas, qui sont faits de couture, hein, c'est-à-dire qui sont couturés avec des choses collées, avec, etc. Et le tableau est aussi intéressant parce qu'il a occulté et caché en faisant autre chose par-dessus. Hein. Et c'est curieux parce que tout à l'heure, je me faisais la réflexion de me dire, ce sont des peintures qui sont en travail, c'est-à-dire qu'on ne les perçoit pas comme arrêtées.
Je pense aussi que c'est cette dichotomie aussi qui me plaît beaucoup. Le fait d'être autant dans cette idée de que le geste ne soit pas apparent, mais aussi qu'on le voit quelque part à travers la transparence peut-être, ou les couches de peinture qui ont été... disposé au fil du temps. Moi, je viens d'une famille très artisanale et j'ai accès en fait à certains produits, notamment des produits qui sont issus du carrelage, etc., des choses comme ça. Et j'avais envie d'expérimenter aussi, comme je pourrais expérimenter des choses qui sont issues de la bande dessinée, des formes, etc., j'avais aussi envie d'utiliser et d'expérimenter des matériaux qui viendraient d'autres hémisphères, d'autres cultures, etc. Et donc peindre avec une colle pour le bâtiment, ça aussi, ça m'interrogeait. J'avais envie de...
Ouais. Alors en même temps, c'est marrant, parce que dans l'abstraction française, alors des années 50, ou même chez les Espagnols, hein, parce que moi je pense à Tapiès, hein, y a beaucoup eu cette idée d'utiliser d'autres matériaux qui étaient ceux du bâtiment. Le sable, enfin, chez Tapiès, c'est évident, hein, le sable, la terre, enfin, il y a le plâtre même, hein,
ouais.
Le plâtre, ah ouais. Mais c'était dans l'idée de faire une peinture politique quand même pour Tapiès, beaucoup, hein, puisqu'il y avait cette difficulté à afficher une identité, je dirais, au sens plein de ce qu'un artiste peut revendiquer dans un contexte politique qui est très écrasant, très dictatorial. Vous, pas du tout, hein, c'est vraiment pour la sensualité, hein.
Oui, bien sûr. Ouais.
Il y a une sensualité de cette matière que tout d'un coup vous arrivez à...
Oui, mais c'est quelque part, moi, je ne fais pas le lien avec le direct, on va dire, avec ce que politiquement ça pourrait faire écho. C'est plus cette, par exemple, quand j'ai utilisé cette pâte aussi, qui est en fait du sable mélangé avec une colle chimique, etc. Mais au final, on obtient une sorte de pâte qui est proche de cette pâte comme les peintres utilisent avec la peinture au couteau, ou peindre dans la pâte, etc., avec ces grosses touches de peinture, etc. Pour moi, c'était une façon aussi de jouer là-dessus.
Pour peut-être un petit peu, on soulève des éléments comme ça, hein, parce qu'il y a quand même une grande diversité, je dirais, de possibles dans la manière dont on peut les regarder, à mon avis. Il y a un panneau qui est constitué d'un ensemble de dessins noir et blanc, mm-hmm. et qui, dont chacun, c'est un format assez petit, hein, dont chacun est constitué de la reprise d'un élément de typographie qui est transformé, ou peut-être je me trompe. Dites-moi exactement de ce qu'il en est de ça.
Alors là, c'est un travail en cours. C'est un travail de collage, je dirais, mais de collage par le biais du dessin. Donc je prends des éléments de plusieurs auteurs de bande dessinée, notamment. Et par exemple, je vais prendre une partie du dessin, je vais en coller une autre par le biais de... toujours par le biais du dessin, pas dans le biais de l'idée du collage est simplement conceptuelle. Et l'idée, en fait, c'est de parce que je me suis inspiré, on va dire, de cette série d'un livre de Marshall McLuhan et de Quentin Fiore.
D'accord.
Qui ont Quentin Fiore, c'est un designer qui a retravaillé sur le livre de Marshall McLuhan avec lui. Et déjà, dans le titre, il y a un petit élément comme ça qui remet en fait en question cette idée du message dans les médias. C'est que le message est devenu le massage. Et ce livre, il m'a beaucoup intéressé parce que, bon, après, c'est juste un passage d'un grand livre de Marshall McLuhan. Et donc lui, il a apposé des illustrations, il a écrit le texte, parfois à miroir, parfois inversé, etc. Et mon idée, c'était de reprendre un petit peu cette idée-là, de ce livre-là, et d'écrire en fait le texte au sein des dessins que moi j'avais créés à partir de collages. Mm-hmm. Donc, comme en fait les médias dans leur ensemble, plutôt les médias issus de... excusez-moi, je me perds un petit peu, mais...
Non, mais de quels médias vous voulez parler, les médias...
Je parle surtout des médias imprimés.
Oui, voilà. Bah, de tout ce qui relève de l'impression.
Oui, voilà.
De l'illustration.
Voilà.
Hein, de l'édition, même.
Tout à fait.
Les prints, on dit en anglais.
Ouais.
Oui, chez nous, c'est pas très... On fait rien autour de ça, chez nous. C'est très américain, ça aussi.
Et ben...
Et les textes, vous disiez qu'il y a des textes.
Et donc le texte, c'est exactement le texte de ces livres-là.
Voilà. Ouais.
C'est The Medium is the Massage. Et donc je recopie à la machine à écrire...
Des extraits.
Non, le texte en entier.
Le texte en entier.
Et d'accord. L'idée, c'est de reproduire en entier ce livre sur ces dessins, mais à la machine à écrire. De sorte à créer, en quelque sorte, une comme une trame, vous savez, de bande dessinée, mm-hmm. ces degrés de gris, en fait, qui donnent de la consistance ou une épaisseur, en fait, mm-hmm. au dessin, mm-hmm. etc. Mm-hmm. Et donc, voilà, c'est un jeu sur tout ça.
Mm-hmm. Bien, bien. Alors, on va en venir au titre, hein, parce que l'exposition s'appelle... Alors, ça dépend comment on le prononce, mais moi, ça m'amuse beaucoup de dire que ça pourrait se prononcer comme ça, comme dirait Almost.
À la française.
Hein, comme dirait Almost. Alors, c'est qui ce Almost?
Mais Almost, ça pourrait être quelqu'un que je citerai, en fait, dans mon travail. Mais comme mon travail est en cours, je dirais, mon travail sera toujours en cours, quelque part. Et j'aime bien le voir comme ça aussi, mon travail. Jamais fini, jamais terminé, jamais, toujours en évolution constante.
Et donc, vous utilisez donc, plutôt Almost dans le sens anglais.
Oui, oui, bien sûr.
Et là, ça veut dire presque.
Voilà.
Oui, hein, c'est et dans ça. Ce presque, vous affichez votre désir d'être sur le fil du rasoir, non? Un peu.
Oui,
on
si
y est
voulez,
presque. Ouais. On n'y est pas tout à fait.
Plutôt, j'y suis presque. As I reach for a